Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université et de ses partenaires. C'était il y a près de 10 ans et je m'en souviens pourtant comme si c'était hier. Ce jour-là, mon médecin que je consultais pour une énième pyélonéphrite, une infection du rein relativement douloureuse, mon médecin donc m'annonçait que l'antibiotique utilisé jusque-là ne fonctionnait plus. Allergique à la pénicilline depuis l'enfance, mon arsenal thérapeutique se réduisait donc significativement, provoquant, je le voyais sur le visage de ma toubib, une inquiétude à prendre au sérieux. Je repartais donc pour cette fois avec dans la poche une ordonnance pour un traitement antibiotique qu'une infirmière viendrait donc m'injecter pendant 2 semaines. Costaud quand même. Mon affaire s'est finalement bien arrangée avec la découverte un peu tardive que je n'avais jamais finalement été allergique à la pénicilline. Bref, le pays merveilleux des antibiotiques à large spectre s'ouvrait à nouveau pour moi, mais la question était posée. Que se passerait-il si les antibiotiques ne marchaient plus? Aurais-je pu mourir d'une pneumonie, d'une cystite ou même d'une simple infection dentaire? Aujourd'hui, l'antibiorésistance provoquerait environ 12 500 décès en France, 33 000 en Europe. Selon la Haute Autorité de Santé, elle pourrait devenir la première cause de mortalité au monde d'ici 2050, avec plus de 10 millions de décès par an si rien n'est fait d'ici là. Au passage, malgré une légère baisse depuis 10 ans, la France reste un des plus grands consommateurs d'antibiotiques. Alors oui, c'est pas automatique, mais ça reste un tic. Cette consommation excessive peut-elle jouer un rôle dans le développement des résistances? Sommes-nous davantage touchés que nos voisins européens, africains, américains? Y a-t-il d'autres facteurs capables d'expliquer l'amplification de ce phénomène? C'est notre sujet du jour. Une étude publiée dans la revue eLife fournit de nouveaux éléments pour mieux comprendre la répartition, à l'échelle mondiale, des gènes de résistance à une catégorie d'antibiotiques et fournit quelques pistes pour contrôler ce phénomène qui pourrait devenir la crise sanitaire la plus préoccupante des prochaines décennies. Avec nous pour en parler dans le studio de Divergence, Stéphanie Bédom, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheuse au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et une des auteurs donc, de ce papier intitulé en français « L'écologie plus que la consommation d'antibiotiques est le principal prédicteur de la distribution mondiale des enzymes modificatrices des aminoglycosides. » C'est dur aujourd'hui. Donc, avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, à l'Imperio.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous irons au Centre Spatial Universitaire de Montpellier pour découvrir l'assemblage d'un satellite. Enfin, Agnès Pesanti viendra nous parler du dernier bar des sciences qui aura lieu le 25 mai. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Donc Stéphanie Bédom, votre étude, elle porte sur la résistance à une famille d'antibiotiques en particulier. Donc je ne les ai pas cités en intro, mais ils s'appellent les aminoglycosides. Donc ils servent à quoi ces antibiotiques et pourquoi vous les avez choisis, eux, pour faire cette étude?
Alors les aminoglycosides, c'est une famille d'antibiotiques, donc peut-être on peut citer la streptomycine ou la gentamicine, qui sont peut-être des noms que vous avez déjà entendus. C'est des antibiotiques qui ont été beaucoup utilisés à partir des années 40, en fait, pour traiter de nombreuses infections. Actuellement, ils sont de moins en moins utilisés en médecine humaine, en particulier parce qu'ils ont des problèmes de toxicité sur les reins et sur les oreilles. Aussi parce que c'est des antibiotiques qu'on doit absolument injecter en intraveineuse, donc au niveau de l'administration du traitement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste des antibiotiques qu'on utilise en dernier recours, par exemple pour le traitement de la tuberculose. Et ils restent beaucoup utilisés en médecine vétérinaire et parfois même en agriculture pour se débarrasser de certaines bactéries qui sont parasites des plantes et qui peuvent menacer les cultures.
Alors, vous parlez donc dans cette étude, dans vos travaux, de gènes de résistance aux antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous préciser, pour comprendre un peu mieux, par quel mécanisme les bactéries elles deviennent résistantes aux antibiotiques?
Donc, en fait, un antibiotique, c'est une molécule qui va tuer une bactérie ou en tout cas l'empêcher de se diviser, donc l'empêcher de continuer à vivre et de se propager. Et donc ça crée une pression de sélection très forte, c'est-à-dire que si par une mutation ou l'arrivée de l'extérieur d'un gène qui permet de survivre ou de se multiplier en présence de cet antibiotique, la bactérie devient résistante. Elle a un énorme avantage par rapport à ses sœurs qui, elles, vont continuer à mourir. Et donc, c'est ce mécanisme d'acquisition d'une résistance par mutation ou par transfert et de sélection qui vont faire que les bactéries deviennent résistantes. Après, le mécanisme pour résister aux aminoglycosides et les gènes auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont des gènes en fait, qui vont aller modifier l'antibiotique, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter un petit morceau, un groupe chimique, comme on l'appelle, sur cet antibiotique et du coup, il ne va plus pouvoir aller tuer la bactérie.
Alors, on parle souvent donc des applications humaines, des antibiotiques. Vous soulevez-vous la question des usages vétérinaires ? C'est quelque chose auquel on est déjà confronté, l'antibiorésistance dans les élevages, par exemple ?
Oui, c'est un problème qui est très important en vétérinaire. Donc, en fait, les résistances antibiotiques, potentiellement, sont des choses qui menacent la production de viande, par exemple, ou les productions de lait ou d'œufs. C'est un double problème, en fait, parce que d'une part, les antibiotiques sont utilisés de façon nettement moins modérée en usage vétérinaire qu'en usage humain, en particulier. Donc, c'est maintenant interdit en Europe, mais c'est toujours pas interdit aux États-Unis. Les antibiotiques sont utilisés de manière prophylactique, c'est-à-dire avant qu'il y ait une infection, en prévention, en quelque sorte. Mais ça veut dire qu'on répand des antibiotiques, qu'on répand une pression de sélection qui va justement, comme je viens de l'expliquer, sélectionner ces résistances. Et il y a un autre problème potentiel qui est qu'il y a certaines bactéries qui sont à la fois pathogènes pour les animaux et pour l'homme. Et donc, si elles deviennent résistantes en milieu vétérinaire et sont ensuite transférées à l'homme, ça devient aussi un problème en médecine humaine.
Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de votre étude. Donc, vous avez couplé la génomique à la bioinformatique pour créer une base de données à l'échelle mondiale qui répertorie dans tous les génomes de bactéries disponibles la présence de ces gènes qui peuvent conférer une résistance aux aminoglycosides. Ces génomes de bactéries, vous les avez trouvés où ?
Donc, il existe maintenant, avec les nouvelles méthodes de séquençage, on peut séquencer des génomes bactériens de façon très facile. Et une partie de ces génomes séquencés sont déposés sur des bases de données publiques qui sont accessibles par tout le monde sur Internet. Donc, on a utilisé une de ces grandes bases publiques qui est gérée par le NCBI, qui est une institution américaine. Et donc, on avait accès à plus de 160 000 génomes bactériens.
Alors, on parle de plus en plus souvent donc, d'analyse génomique, mais en vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez prendre les bactéries, regarder leur génome et un par un tester les gènes, ou alors vous savez déjà quel gène vous cherchez et voilà, vous allez chercher directement, cibler.
Alors, quand on dit qu'on a le génome d'une bactérie, ça veut dire qu'on connaît sa séquence d'ADN de la première à la dernière base. Mais on ne sait pas forcément où sont les gènes, quels sont les gènes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a les gènes qui donnent une résistance aux aminoglycosides sont bien connus. Donc on a créé notre base de données locale de séquences de ces gènes de résistance. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné tous les génomes, pas à la main, de manière informatique, pour la présence de ces gènes de résistance aux aminoglycosides.
Ça prend beaucoup de temps de faire ça ou pas ?
Je ne saurais pas répondre en termes d'heures, mais c'est quelque chose qui s'automatise. Donc ça prend du temps, mais ce n'est pas du temps où on est nous à travailler. Il faut lancer l'étude au niveau informatique, et puis après c'est l'ordinateur qui travaille.
Alors, vous avez également, dans cette étude, déterminé la localisation de chaque gène de résistance à l'intérieur du génome, et vous avez regardé en particulier s'il était associé à un élément génétique mobile, vous allez nous expliquer, qui favorise les échanges horizontaux de matériel génétique entre bactéries d'espèces différentes. Est-ce que ça veut dire que les bactéries, même d'espèces différentes, elles peuvent se transférer cette résistance entre elles ?
Oui, tout à fait. Donc en fait, chez les bactéries, comme chez les humains ou d'autres animaux ou plantes, le matériel génétique se transmet des parents aux enfants, aux descendants. Mais les bactéries utilisent en plus de manière assez fréquente le transfert dit horizontal, c'est-à-dire entre deux cellules qui peuvent être de la même espèce, qui peuvent être d'espèces différentes. Donc, c'est-à-dire que des morceaux d'ADN qui peuvent potentiellement porter ces gènes de résistance vont passer d'une cellule à l'autre. Alors ça, il y a différents mécanismes pour le faire. Soit on va avoir ce qu'on appelle la conjugaison bactérienne, c'est-à-dire que deux cellules créent une sorte de petit tunnel entre elles au travers duquel va passer de l'ADN, souvent sous la forme d'un plasmide, c'est-à-dire un morceau d'ADN circulaire. On peut avoir intervention de virus, donc des virus qui infectent les bactéries et qui, en plus de leur génome à eux, vont emmener un petit bout du génome bactérien. Et puis ensuite, quand ils vont aller infecter une nouvelle cellule, ben, ils vont injecter ce petit bout du génome de la première bactérie.
Alors, cette base de données, aujourd'hui, elle vous a permis donc de mieux comprendre la répartition mondiale de cette antibiorésistance et vous montrer qu'elles sont ubiquitaires. Donc, ça veut dire que finalement, on les retrouve partout. On est, je posais la question en introduction, si on était, si on avait la même menace que nos voisins africains ou américains, c'est finalement, on les retrouve partout, ces résistances.
Oui, donc des résistances aux antibiotiques, on en trouve littéralement partout en termes de géographie, mais aussi en termes de biome écologique, de grands ensembles écologiques. Par contre, autant au niveau géographique qu'au niveau écologique, on a une grande variation dans la proportion de bactéries qui sont résistantes. Donc, par exemple, on a des zones géographiques comme l'Asie du Sud-Est, et en particulier le Vietnam, où on a des proportions de bactéries résistantes qui sont énorme, et puis des endroits en Afrique australe où la proportion de bactéries résistantes est plus faible. Mais elles existent, elles sont présentes quand même.
Est-ce qu'il y avait des zones où vous disposiez quand même de moins de matériel génétique à analyser ?
Oui, bien sûr. Quand vous me parliez de la base de données qu'on avait utilisée, c'est une analyse qu'on appelle scientifiquement opportuniste, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons dessiné l'échantillonnage pour aller pour avoir un nombre de génomes équivalent dans toutes les zones géographiques et dans tous les biomes. Et donc, on avait un échantillonnage qui était un peu déséquilibré. Par exemple, en Antarctique, on n'a pas énormément de données, mais aussi en Afrique, parce qu'il faut voir qu'on a une proportion relativement importante de ces génomes qui sont des génomes de bactéries qui ont été récoltés à l'hôpital. Et donc, il y a beaucoup plus d'études sur des grands hôpitaux européens et américains que sur des dispensaires en Afrique.
Alors, vous dites dans cette étude qu'au fur et à mesure du temps, le nombre de façons de résister aux aminoglycosides augmente. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouveaux gènes de résistance qui apparaissent dans le temps ?
Alors, ce qu'on voit dans nos données, ce qu'on est capable d'identifier dans nos données, c'est la première fois dans le temps, puisque un génome est associé à une date, en fait, on sait quand est-ce qu'il a été échantillonné. On peut dire, dans ce jeu de données qu'on a, la première fois où on voit tel gène de résistance, c'est à telle date. Ça ne veut pas dire que le gène de résistance n'existait pas avant. C'est simplement que dans le jeu de données qu'on a, il n'est pas présent. Mais les bactéries, ça fait très longtemps qu'elles existent. Il y a dans une autre étude, les gens ont trouvé des gènes de résistance aux antibiotiques dans le permafrost, dans des strates du sol qui dataient de plusieurs dizaines de milliers d'années, donc bien avant qu'on utilise des antibiotiques en thérapeutique. Il faut savoir que les antibiotiques, au départ, c'est des armes de lutte entre bactéries pour lutter pour l'acquisition d'un territoire, en quelque sorte. Et donc, dès que ces antibiotiques ont été produits, par les mécanismes évolutifs, on a eu aussi des résistances qui sont apparues. Donc, des résistances aux antibiotiques, il y en a depuis très, très longtemps. Probablement, on ne peut pas vraiment dater. Par contre, elles se sont propagées de plus en plus à de plus en plus d'espèces bactériennes, et en particulier vers des espèces bactériennes qui sont pathogènes pour l'homme. Et donc, au fur et à mesure du temps, depuis qu'on a commencé à utiliser les antibiotiques en thérapeutique, on a vu de nouvelles formes de résistance qui sont apparues dans ces espèces pathogènes, mais aussi dans des espèces plus liées aux animaux.
Alors, justement, vous avez montré avec des approches statistiques que sur cette période de 1997 à 2018, en Europe, la consommation humaine et vétérinaire d'aminoglycosides, c'est un facteur qui finalement contribue assez peu à expliquer les variations des fréquences de résistance. Donc, c'est peut-être pas, comme on en parlait au début, juste l'abus d'antibiotiques qui crée ces résistances ?
Alors, l'usage et l'abus d'antibiotiques est clairement une pression de sélection qui va favoriser la propagation de bactéries résistantes, qui va favoriser le transfert horizontal, donc que de nouvelles espèces deviennent résistantes. Ensuite, ce qu'on voit sur cette phase, à partir des années 90, en fait, qui est à peu près le moment où on a vraiment pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et ne plus prescrire à tout va, on voit que ce n'est pas forcément parce qu'on a réduit cette prescription et cette consommation qu'on a eu une chute de la proportion de bactéries résistantes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à la consommation. Simplement, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et pour que on a parlé tout à l'heure des plasmides, par exemple. Sur les plasmides, on va avoir, par exemple, une résistance aux aminoglycosides, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, mais souvent, il y a d'autres gènes de résistance. Donc, si on réduit la consommation d'aminoglycosides, mais qu'on ne réduit pas la consommation de pénicilline, eh ben, on va continuer à favoriser la présence de ce plasmide, et de façon indirecte, à favoriser la présence de résistance. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que juste la consommation de l'antibiotique concerné.
Ce que vous avez montré aussi donc, dans cette étude, qui est plus surprenant en tout cas pour un public non averti, c'est que le flux de marchandises et de personnes, elle favorise justement donc, cette résistance. Comment ça fonctionne ?
Donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'on a fait basée sur des descriptions de cas, d'études de cas, en fait, on sait par exemple que telle résistance a été amenée dans tel pays par le commerce de la fourrure. Il y a eu des cas documentés. Nous, on s'est dit, peut-être qu'en fait, ça se passe à une échelle très large. Et donc, l'hypothèse, c'est que quand on a importation de biens, bon, en particulier de biens alimentaires, mais les fourrures sont un autre exemple, ou les textiles, on peut avoir des bactéries associées. Ces bactéries peuvent porter des gènes de résistance. Et donc, en fait, en important, on va créer un flux de bactéries résistantes et de gènes de résistance. Et donc, est-ce que ce flux pourrait participer à... aux prévalences, en fait, à la proportion de bactéries résistantes dans un territoire. Donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder avec cette étude. Et la réponse est oui, dans une certaine proportion. Et c'est le même raisonnement au niveau des migrations, c'est-à-dire que des gens qui arrivent... Alors, on l'a testé sur les migrations. Je pense que ça a aussi lieu avec les flux humains liés au tourisme. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir toutes les données de flux dans tous les sens au niveau du tourisme. Mais les gens qui voyagent arrivent avec leurs bactéries résistantes, donc avec des gènes de résistance, et du coup peuvent participer à ce flux de bactéries résistantes et de gènes de résistance.
Alors, votre article, il lit finalement du coup quelques pistes pour lutter contre cette menace pour la santé publique. On a compris que réduire les antibiotiques, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour essayer de contrôler ou de limiter cette propagation des résistances aux antibiotiques ?
Alors, je pense d'abord, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est important de ne pas raisonner en termes de cette résistance et une menace. Donc, on va... se focaliser à réduire la consommation de l'antibiotique auquel elle confère une résistance, puisqu'on a des gènes liés, donc des effets indirects. Donc c'est la prescription de tous les antibiotiques qu'il faut réduire, et pas seulement la prescription humaine, comme on en a parlé avant, l'impact vétérinaire est en fait énorme. Et ensuite, il y aurait une phase de mieux comprendre comment ces résistances circulent pour pouvoir potentiellement après essayer d'interrompre ou de limiter au moins ces circulations. Et probablement des systèmes de vigilance plus importantes sur les importations, justement. Et encore une fois, il y a déjà des choses qui sont en place, de tests ponctuels de présence de bactéries, résistantes sur les importations, en particulier sur l'importation de viande. Ce qui se passe, c'est qu'on se focalise souvent sur des espèces qui sont un problème pour les animaux ou qui sont un problème pour l'homme, mais pas sur les gènes. Donc, c'est-à-dire que si une espèce qui n'est pas pathogène apporte un gène de résistance, on ne va pas s'en apercevoir. Parce qu'on ne travaille pas sur les gènes, on travaille vraiment sur les espèces résistantes.
Et on n'a pas justement de grande veille sanitaire mondiale qui pourrait... Il n'y a pas ces procédés-là mis en place.
Alors, à l'intérieur de l'Europe, il commence à y avoir des choses. L'harmonisation n'est pas encore parfaite, mais bon, comme tout, ça ne se met pas en place comme ça. À l'échelle mondiale, c'est encore assez compliqué à mettre en place, ouais.
Alors juste pour terminer, il nous reste 30 secondes. Donc là, on a parlé de votre étude sur les aminoglycosides. Est-ce qu'elle est généralisable à d'autres antibiotiques, cette étude ?
Alors, elle n'est pas généralisable en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer exactement les mêmes conclusions. Par contre, ce qui va être possible de faire, c'est toute la méthodologie qui a été mise en place pour arriver à ces conclusions. On peut maintenant l'appliquer à d'autres familles de gènes de résistance et donc j'espère dans le futur acquérir des connaissances sur la propagation d'autres familles.
Et vous reviendrez nous voir pour nous en parler.
D'accord.
Un grand merci à vous, c'était passionnant.
Merci.
Merci beaucoup Aline.
Merci.
Et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Et c'est Romain Briand cette semaine, il est ingénieur au Centre Spatial Universitaire. Il nous a fait revêtir blouse, charlotte et surchaussures pour pénétrer dans la salle propre où sont assemblés les satellites.
4, 3, 2, 1... donc Romain Briand. Je suis ingénieur au Centre Spatial Universitaire de Montpellier et je suis responsable des activités d'assemblage, d'intégration et de test sur tous les projets satellites.
Donc des gants, une blouse, des surchaussures, une charlotte, un masque, on se trouve où exactement ?
Donc là, on est dans la salle propre du CSUM. Donc c'est un environnement qu'on dit contrôler. On essaie de contrôler un maximum tout ce qui est lié à température, hygrométrie, nombre de particules. Tout ça pour avoir un environnement contrôlé pour pouvoir travailler sur les satellites qui vont partir en orbite.
On est en période de vacances là, donc c'est très calme, mais vous êtes nombreux à travailler dans cette... Parce qu'elle est grande cette pièce, on ne l'a pas décrite, mais...
On a à peu près 100 mètres carrés, qu'on peut être plus d'une dizaine à travailler sur les satellites. Il faut éviter d'être trop nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on génère de particules. Ici, chaque paillasse est dédié à un projet particulier. Donc ici, c'est la paillasse de Robusta 3A, qui est un satellite 3 unités, un CubeSat 3 unités, qui va partir l'année prochaine en orbite.
Alors juste pour décrire pour les auditeurs, donc un CubeSat 3 unités, ça fait à peu près quelle taille ?
Donc ça fait 340 mm de hauteur, donc c'est vraiment tout petit, c'est la taille d'une boîte à chaussures. Celui-ci va être assemblé très bientôt, il n'y a pas encore les cartes électroniques complètement assemblées.
Donc il est entièrement composé de cartes électroniques en fait, le satellite ?
Alors voilà, le satellite c'est un condensé d'électronique, chaque carte électronique a un rôle bien défini, il y a une carte qui permet de gérer la télécommunication, une carte qui permet de gérer la puissance, le stockage d'énergie, et on a également beaucoup de pièces mécaniques qui permettent de faire le lien entre les cartes. Ici, donc, il manque encore à assembler les dernières cartes et à faire les tests fonctionnels pour vérifier que toutes les cartes fonctionnent correctement.
On ne le ferme que quand on a testé toutes les cartes, c'est ça ?
On fait des tests avant de fermer le satellite, mais également après. Il faut vraiment qu'on teste dans la configuration finale du satellite, parce qu'il y a tellement d'ensembles électroniques que suffit de rajouter une pièce que ça ne peut ne fonctionner différemment.
Ça arrive, ça, des fois ?
Ça arrive très souvent. Une carte qui peut fonctionner toute seule sur paillasse peut ne pas fonctionner intégrée dans le satellite avec d'autres cartes.
La dernière fois que je suis venue, on avait fait le FlatSat, donc là, en fait, c'est l'étape d'après.
Exactement, le FlatSat, c'est un modèle de satellite qui est dépourvu de pièces mécaniques, donc ça permet de tester des cartes indépendamment les unes des autres. Lorsqu'on valide le FlatSat, on peut ensuite passer à la version avec les pièces mécaniques, donc les modèles de vol ou des modèles d'ingénierie. Une fois que tout ça est assemblé, on fait des tests un peu plus poussés comme des tests en vide thermique, des tests en vibration qui permettent de simuler soit l'environnement spatial, soit l'environnement du lanceur. À côté, on a une autre salle propre où sont situés des gros équipements de test qui sont le pot vibrant et le caisson de vide thermique. Ce sont ces équipements-là qui nous permettent de tester les satellites en vibration et en cyclage thermique. On refait des tests fonctionnels derrière. Si le satellite répond, on peut dire qu'il est qualifié et validé et dans ce cas-là, on peut le livrer au lanceur.
Donc il va y avoir deux lancements de satellites en septembre, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Alors cette année, on attend deux lancements, projet ENSO et Djibouti, Djibouti 1A. Donc ce sont des CubeSat 1 unité, ceux-là qui font 10 cm de côté et 10 cm de hauteur. C'est un satellite qui est composé de cellules solaires sur les faces extérieures, composé d'antennes. Ce satellite-là est destiné à partir sur une orbite basse, c'est-à-dire environ 400 ou 500 km d'altitude. Et donc il va partir sur un lanceur qui partira en fin d'année. Alors là, ce qui est intéressant dans la salle propre, c'est que comme on a plusieurs projets qui sont à différentes phases d'assemblage, donc on vient de voir Djibouti 1A qui est finalisé, prêt à être livré au lanceur. On a ici Djibouti 1B qui, donc lui, va être lancé un petit peu plus tard et qui est toujours en phase d'assemblage.
Alors, lui, il est à moitié fermé seulement.
Exactement. Alors lui, il est en phase de test. La particularité de celui-là, c'est qu'il a une caméra sur la face supérieure.
Ah oui, on voit un petit œilleton, ouais, en effet.
Exactement. Donc lui, il va pouvoir prendre des photos en orbite. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très commun sur des satellites de cette taille. Il est actuellement en cours de test. Cet après-midi, par exemple, je vais replier les antennes pour pouvoir le mettre en configuration de lancement. Parce que là, on voit les antennes qui sont dépliées. Comme lors du lancement, on doit les mettre dans des boîtes, il faut que tous les éléments déployables soient repliés.
D'accord, donc ces antennes, c'est des petits fils, ils font quoi, 30 cm ?
Oui, ce sont des brins métalliques qui font environ 30 cm. Et si on a besoin d'envoyer des télécommandes pour exécuter certaines tâches, ce sont ces antennes-là qui reçoivent les signaux.
Combien de temps on met pour fabriquer un satellite comme celui-là ?
Alors le mot fabriquer, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le spatial, nous on parle vraiment d'assemblage et d'intégration. Intégration, c'est un terme qui signifie d'assembler plusieurs sous-systèmes fonctionnels entre eux pour qu'ils puissent marcher ensemble. L'assemblage ou l'intégration dure quelques mois seulement. C'est pas le plus long dans le projet parce qu'il y a avant évidemment tout un temps de développement, donc un développement numérique. On va avoir un temps de développement d'autres modèles. Donc ça, ça peut prendre un peu de temps parce que comme c'est la première fois qu'on va allumer les cartes entre elles, il va y avoir pas mal de débugage ou de choses à corriger. Et la dernière phase, donc l'assemblage et l'intégration du modèle de vol, ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. Et ensuite, il y a une phase de test qui, pareil, peut durer quelques semaines ou quelques mois. Si on n'a pas d'anomalie, ça peut être très rapide. Si on a des anomalies, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir corriger ça.
Ben, merci beaucoup, Romain.
Avec plaisir.
4, 3, 2, 1.
Et je reçois maintenant notre invité des trois dernières minutes, et c'est Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique à l'Université de Montpellier, qui vient nous présenter le prochain Bar des Sciences, qui aura donc lieu le 25 mai à 20h30 à la brasserie Le Dôme, sur le thème « Un bébé à tout prix ». C'est bien ça, Agnès ?
C'est vouloir un bébé à tout prix. Bonjour.
D'accord, j'avais pas tout bon, mais j'étais pas loin. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce thème ? De quoi on va parler ?
Eh bien, en fait, on a un petit peu creusé le sujet et on a appris qu'aujourd'hui, 3,3 millions de Français et de Françaises sont directement touchés par l'infertilité. Et ça, vraiment, on n'en parle pas tant que ça, finalement. Un couple sur quatre ne parvient pas à concevoir, et ces chiffres sont issus du rapport commandé par le ministère de la Santé et publié en février 2022, donc c'est tout récent. Et cette infertilité, eh bien, elle serait liée à des facteurs environnementaux, biologiques et médicaux. Alors évidemment qu'elle pèse sur la santé publique, notamment celle des femmes, et elle appelle à des réponses sociétales autant que médicales. Alors évidemment, on pense toujours à l'assistance médicale, à la procréation, la PMA, qui représente un immense espoir pour les personnes qui désirent un enfant, mais elle ne leur permet pas toujours de devenir parents. La fécondation conserve sa part de mystère et d'incertitude. Et puis, le hasard de la vie garde ses droits et aucune technique ne maîtrise totalement l'aboutissement d'un projet de grossesse. Donc, alors, on aura trois experts pour venir éclairer.
Qui viendra vous en parler ?
Eh bien, nous avons le docteur Nicolas Chevalier, qui est gynécologue obstétricien dans la médecine de reproduction au centre AMP Saint-Roch de Montpellier. Il est ex-président de la Société de médecine de la reproduction. Il a vraiment des apports très, très intéressants. Le professeur Samir Amama, qui lui est chef de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Et puis, on a Christelle Tutu-Novic, qui est psychologue clinicienne spécialisée sur cette thématique. Elle travaille en cabinet et en clinique.
Super. Et trois experts que le public pourra interroger donc comme il le souhaite, c'est ça ?
Exactement.
Donc on ne change pas la formule.
On ne change pas la formule. Elle fonctionne bien.
C'est vrai, elle fonctionne bien et depuis longtemps. Eh ben merci beaucoup Agnès. Donc on rappelle, c'est le 25 mai donc au Dôme à 20h30.
Voilà, je tiens juste à préciser que cette soirée bénéficiera d'une traduction en langue des signes, comme on le fait pour certains bars des sciences de la saison, et celui-ci en bénéficiera.
Super, merci beaucoup Agnès.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt, merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.